Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, bonjour. C'est un plat pays qui tente de lutter contre une nouvelle vague. La Belgique essaie d'éviter de se reconfiner complètement. Oui, la Belgique, nos voisins, nos cousins, petit pays déjà très touché par le coronavirus. Le nombre de contaminations repart, notamment dans la région d'Anvers. Alors marche arrière, on ne déconfine plus, on espère éviter de refermer complètement le territoire. Entendu ce matin sur Europe 1, le ministre belge des Affaires étrangères, Philippe Goffin, histoire de vague.
Oui, c'est un début de vague, c'est-à-dire que ça concerne certaines régions du pays, pas partout dans le pays. Donc il y a des lieux, des villes qui sont particulièrement touchées. Donc on a estimé qu'il fallait renforcer les mesures sur l'ensemble du territoire pour éviter que cette vague ne touche le pays dans son ensemble.
Alors la bulle sociale belge se referme, retour massif au télétravail, accès aux magasins, une personne par famille, aucune manifestation publique. Et si des couples belges d'aventure avaient prévu de se marier, pas plus de 10 personnes dans l'assistance pensée pour les Belges. Ce matin dans Culture Média, le boom des télés locales, audience en hausse partout pendant le confinement, le régional et plus encore le local, on le vend en poupe. Deux invités, Philippe Antoine pour BFM et Dominique Renaud pour Local TV. M6 lance jeudi sa série familiale estivale, Les Copains d'abord. Quel ton, quel thème en prime time sur M6? On en parle avec le producteur Stéphane Moatti et le comédien Amaury de Crayancourt. Ne manquez pas la deuxième heure de Culture Média à partir de 10h, l'humour, l'énergie, la tchatch de la comédienne Mela Bédia. Après le succès du film Forte sur Amazon, elle assure la voix française de Blanche-Neige, dans un film d'animation coréen, je vous jure. Culture Média commence maintenant. Belle matinée à vous sur Europe 1. Il tousse déjà, mais au moins tousse-t-il dans son coude. Bonjour Martin.
Je fais des efforts, je sais. C'est les allergies, je rappelle. Ah, vous ne croyez toujours pas à l'olivier. C'est un peu triste d'être allergique aux oliviers.
Ah, c'est vrai? Mais on va tout savoir de vous.
C'est triste.
Mais j'aime autant ça, remarquez bien. Place au journal des médias quand même, vous êtes là pour ça. Hein. Qu'avez-vous en stock aujourd'hui?
TF1 qui s'engage encore dans ses séries. Voilà qui ne pourrait ne pas plaire à une polémiste. On l'entendra sur CNews, mais pas forcément en podcast. Et les podcasts, tiens, Trump, est-ce qu'il écoute?
Jingle, ouais, jingle audience, parce que moi je suis jamais allergique aux audiences. Qu'est-ce qui a marché?
Pour être désensibilisé. M6 est première hier avec le film Les Dents, Pipi et Oli. 17,4%. Bon, c'était mignon ce film. 17,4% du public. M6 qui est donc devant TF1. TF1 relégué à la seconde place avec Camping Paradis. 14,5% d'audience. Pour fermer le podium, France 2 avec sa série policière Motive le mobile du crime, 12% du public.
Culture Média. Qui veut voir qui pourra voir le foot en France, Martin?
Téléfoot, la chaîne va débarquer sur les box SFR avec même cerise sur le gâteau. Une offre couplée Téléfoot RMC Sport pour 25€ par mois. Téléfoot avec le meilleur de la Ligue 1, mais pas que. On apprend aussi qu'il y aura le meilleur de la Ligue des Champions et de l'Europa League sur Téléfoot, après un accord avec SFR toujours.
TF1 maintenant, vous nous parliez hier de Mention Particulière, cette fiction bientôt de retour, on y suit Laura, une jeune trisomique, et bien la Une continue de porter à l'écran des thèmes sans tabou.
Ça s'appellera cette nouvelle fiction Il ou Elle. Alors Il ou Elle, c'est le titre, hein. C'est pas ça s'appellera soit Il, soit Elle, ça s'appellera bien Il ou Elle ensemble. Je me suis demandé si on comprenait quand je l'ai écrit. Ça s'appellera Il ou Elle parce qu'on y parlera de transidentité. On va suivre un ado, Julien. Alors comme tous les ados, eh bien, le corps de Julien va changer, des muscles qui se dessinent, des poils un peu partout, une voix qui mue. Sauf que Julien, depuis tout petit, il se sent femme. Bref, Julien, c'est une femme née dans le mauvais corps. Dans cette nouvelle fiction, on va parler transition et tolérance. Déjà en 2017, TF1 avait parlé de transidentité à 20h50. Ça s'appelait Louise et ça donnait ça.
Bonsoir Agnès.
Ah oui, c'est moi.
Je te reconnais. Même si t'as changé, je t'ai reconnue tout de suite. Donc, tu l'as fait. Hein. Et, t'es allée jusqu'au bout?
Oui, c'est définitif. Maintenant, je suis une femme. Je ne pouvais plus rester entre les deux.
Dans Il ou Elle, Odile Huillemain, l'héroïne de la série policière Profilage, jouera Sabine, la mère de Julien un peu perdue. Le tournage a commencé hier et pour être totalement exhaustif, Pascal, c'est adapté d'une bande dessinée.
La transidentité, voilà un sujet dont on aimerait bien voir comment le traite CNews, ou pas d'ailleurs. Hein. La chaîne info du groupe Canal+ continue son virage à droite.
Très à droite même. Il y avait déjà Éric Zemmour, il y aura peut-être un jour Marion Maréchal, la petite fille de Jean-Marie Le Pen. Il y aura en septembre Eugénie Bastier. Eugénie Bastier, c'est ça. Extrait d'un débat sur Public Sénat il y a quelques mois, c'était sur l'avortement. Écoutez.
Moi, personnellement, je considère que c'est un homicide et qu'on décide arbitrairement, par un compromis politique, de trancher entre deux vies. La vie de la mère et la vie d'un enfant, une vie à venir.
La journaliste conservatrice et très proche de la Manif pour tous, découverte par Le Figaro, était jusque-là polémiste régulière sur BFM TV.
Et donc, Eugénie Bastier change de crèche. Hein, c'est pas mal comme titre. Non, ça vous plaît pas.
Okay. Faut que j'y réfléchisse encore un peu.
Ouais, c'est ça. Les radios françaises main dans la main.
Vous connaissez Netflix, Pascal ?
Non, je vois pas du tout.
Si, vous connaissez, j'en suis sûr. Hein ? Je sais que vous connaissez pas Amazon Prime très bien, mais vous connaissez Netflix, on peut le dire maintenant. Les radios françaises veulent faire un peu la même chose avec tous leurs programmes. Une plateforme commune dès janvier avec des milliers d'heures de programmes. On pourra y retrouver ceux de Lagardère News. Alors Lagardère News, forcément, c'est Europe 1, Virgin Radio, mais aussi Radio France, le groupe M6 qui détient RTL, RTL 2 ou Fun Radio, ou encore sur cette plateforme les Indes Radio, propriétaires de Voltage ou Radio Latina. Cela fait à peu près 2 ans que le projet est dans les cartons. Mais avec le confinement, toutes ces radios ont compris que cette fois-ci, il fallait y aller. Pourquoi ? Explication de Jean-Éric Valli, patron des Indes Radio.
30% de l'audience se réalise dans les voitures. Le confinement a impliqué l'absence d'écoute dans les voitures. Et finalement, cette écoute s'est reportée dans les maisons, mais pas forcément sur un poste de radio traditionnel, puisque finalement, ça s'est reporté en écoute digitale pour une grosse partie. Il y a une qualité sonore supérieure. Et il ne faut pas qu'on soit piégé par les propositions des GAFA, par les propositions des agrégateurs, qui, encore une fois, n'ont pas un véritable intérêt à ce qu'il y ait un lien entre le public directement et les radios. Ils ont au contraire intérêt à monnayer ce lien.
Un projet qui bien sûr rappelle Salto, la future plateforme commune en télé, cette fois-ci avec TF1, M6 et France Télé.
On continue de parler d'audio, mais aux États-Unis cette fois-ci, et c'est un grand journal qui croit de plus en plus au podcast.
Oui, le très influent et respecté New York Times vient de racheter Serial Productions. Alors Serial Productions, c'est un grand studio américain, pas un studio de film comme on pourrait le croire, mais un studio de podcast. Là-bas, il y a des studios de podcast carrément. D'ailleurs, quand je vous dis acheter, c'est plutôt casser sa tirelire, puisque le New York Times aurait fait un chèque compris entre 25 à 50 millions de dollars.
Rappel des activités de Serial Productions.
Alors, ils se sont fait connaître en 2014, c'était il y a longtemps déjà, pour un podcast éponyme. C'est la référence des podcasts à travers le monde. Il s'agit de documentaires sur de grandes affaires criminelles, avec des enquêtes, des contre-enquêtes. On pourrait dire grossièrement que c'est une sorte de fait entrer l'accusé en podcast, jusqu'à 300 millions de téléchargements pour certains épisodes. Plus récemment, il y a eu aussi The Daily, c'est un podcast quotidien pour savoir ce qui s'est passé aux États-Unis et dans le monde. Chaque jour, ce sont près de 3 millions d'Américains qui téléchargent The Daily pour s'informer.
The Daily du New York Times. On ne sait pas s'il écoute des podcasts, mais on sait qu'il tweet un maximum. Donald Trump, mais pour combien de temps encore ?
Le président américain vient de recevoir un blogueur un peu fantasque à la Maison Blanche. Et clairement, quand on sait que le président américain tweet plus vite que son ombre, on ne s'attendait, mais on ne s'attendait vraiment pas à ça.
Vous aimez être sur Twitter ?
Oui, il y a des fois où j'adore être sur Twitter. Trop parfois.
Et c'est quoi ce compte Twitter ? C'est un compte personnel ou pas ?
Non, c'est le mien. Il est personnel. Je ne sais pas. Peut-être que quand tout ça sera fini, j'arrêterai de me servir de Twitter.
Vous avez entendu, je pourrais arrêter Twitter. Voilà un choc pour les 30 millions d'abonnés de Trump. Est-ce que vous savez, Pascal, en cette fin de mandat, à quelle fréquence Trump envoie-t-il un tweet ?
Bon, 10 par seconde environ.
Non, un tout petit peu plus, mais quand même une fois tous les 3/4 d'heure. Un tweet tous les 3/4 d'heure.
Et reste du temps, il joue au golf. Martin Cangelosi, merci beaucoup et rendez-vous demain pour le nouveau journal des médias.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
C'est arrivé près de chez vous, film belge culte avec Benoît Poulvord. Non, c'est pas du tout notre sujet. C'est arrivé près de chez vous, principe actif d'un certain type de journalisme. Plus c'est près, plus c'est intéressant. Le local comme credo, il n'y a pas qu'en politique qu'on brandit la carte des territoires. Chaîne de télé locale, pourquoi ce boom ?
L'actualité en bref de ce lundi, c'est tout d'abord le succès de la campagne de dépistage du Covid-19 dans les Vosges, organisée par l'Agence régionale de santé et la préfecture. 475 tests ont été effectués vendredi dernier à Épinal, alors que le plafond était fixé à 400 initialement.
De 17h à 20h, nous serons en direct à vos côtés pour vous accompagner, vous donner toutes les infos sur BFM Lyon, avec notamment en politique les élections municipales. On parlera également économie, culture, sport. On va suivre cette année les aventures de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. Bref, vous ne manquerez aucun événement avec nous.
Philippe Antoine, bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous dirigez les rédactions de BFM Région et vous avez de plus en plus de rejetons. BFM Paris la première, ont suivi BFM Lyon dont on vient d'entendre un extrait. BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. C'est où Grand Littoral ?
C'est toute la côte du littoral qui est essentiellement du Pas-de-Calais, c'est-à-dire Dunkerque, Boulogne. Jusqu'à Ardelot, Touquet, voilà, c'est toute cette partie-là, plus les terres du Pas-de-Calais.
Plus les terres du Pas-de-Calais. Quelles seront les prochaines destinations, les prochaines antennes régionales, Philippe-Antoine ?
Alors la prochaine, ce sera une chaîne qui aujourd'hui s'appelle DC TV, qui est une chaîne très locale qui diffuse essentiellement sur les Alpes du Sud, Sisteron, Manosque, Gap, avec des problématiques très intéressantes. C'est à la fois une chaîne qui s'adresse à toute l'activité de montagne, mais aussi de tout ce qui est le Sud et la Provence. Et donc là, on a conclu un accord avec ses dirigeants et un lancement de BFM, je ne sais pas encore comment on va appeler la chaîne, très certainement début 2021.
Pourquoi cette régionalisation qui va continuer probablement, vous venez d'en donner la preuve, quelle est l'idée ? Pourquoi cette tendance, Philippe-Antoine ?
Je pense tout simplement parce que ça répond à une demande, et plus qu'une demande, à un besoin d'informations de proximité, d'informations quotidiennes, d'informations qui rend service. Moi, je pense que c'est vraiment ça notre axe, en tout cas le besoin et notre effort, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'on lance un sujet, qu'on invite quelqu'un, qu'on délivre une information, de toujours se poser la question en quoi ce que je vais essayer de produire comme information va pouvoir rendre service à la personne qui la regarde et répondre souvent à une de ses interrogations, à une de ses inquiétudes, à une de ses problématiques. Et donc ça, c'est vraiment notre façon d'essayer de traiter l'actu, qui est pas forcément celle qu'on voit partout ailleurs.
Je salue aussi Dominique Renaud, bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous co-présidez Local TV, un syndicat des télés locales françaises, et vous dirigez l'une des antennes du groupe VIA. Combien de VIA en France ?
Alors, combien de VIA ? Donc nous, il y a une dizaine de chaînes VIA en France, mais qui ne sont pas toutes, qui ne sont pas un groupe. Hein. C'est un regroupement de chaînes. Puisque VIA Vosges est une structure totalement indépendante.
Effectivement, VIA Vosges que vous dirigez et qui se trouve à Épinal. Point commun entre les BFM Régions et les VIA départementales, c'est que ça marche. Dominique Renaud, vous avez notamment constaté une augmentation de votre audience pendant le confinement. Pourquoi, selon vous, la proximité qu'évoquait Philippe-Antoine ?
Ah ben la proximité qu'évoquait Philippe-Antoine, c'est sûr que c'est quelque chose de très important. Cette notion d'info, de service, c'est quelque chose qui est dans notre ADN depuis des années. L'ADN des chaînes locales, c'est aussi de valoriser toutes les initiatives qui sont sur les territoires, de donner la parole à ceux qui habitent ces territoires. Et je pense que les citoyens ont besoin de s'exprimer, et ils l'ont manifesté ces derniers temps, cette envie de s'exprimer, d'être entendu.
Et singulièrement pendant le confinement, il y avait un aspect pour le coup très pratique, on avait envie de savoir ce qui se passait de façon très locale par rapport à ce coronavirus.
Oui, c'est sûr que nous, pendant ce confinement, on a noté une augmentation de nos fréquences. Les derniers chiffres médiamétrie montrent qu'il y a une augmentation de 20% pratiquement sur les deux périodes de référence. Donc c'est quelque chose d'important. Les gens avaient envie, oui, d'avoir des nouvelles et de savoir comment chez eux ça se passait. On essayait aussi de trouver des infos positives, parce que c'est vrai que c'était un peu anxiogène toute cette période, et qu'il fallait trouver aussi des exemples d'initiatives qui permettaient d'avancer. C'est vrai qu'il y avait quand même pas mal d'initiatives de solidarité et qu'il était important de les mettre en avant.
Donc info locale, info service, voire info positive. Est-ce que ça reste de l'info, Philippe-Antoine? Est-ce que l'info est faite pour ça, finalement?
Ah bien sûr, ça reste avant tout de l'info du quotidien, c'est-à-dire que nous notre triptyque c'est de l'info, de la météo et du trafic. Quand vous dites à quelqu'un qui se lève voilà pour si on parle de BFM Paris par exemple, si vous partez de la porte de Bagnolet pour arriver à la porte de Lila, vous allez mettre 12 minutes parce qu'il y a un accident sur le périphérique et que ce matin pour vous habiller attention prenez un parapluie parce qu'il y a pleuvoir toute la journée. Et ensuite, toutes les infos, j'ai envie de dire, incontournables, politiques, économiques, culturelles. Oui, évidemment, tout ça, ça fait un bloc d'infos. Mais encore une fois, je pense qu'avec une façon déjà de la raconter, on a lancé pas mal. Enfin, on s'oblige à être novateur et à lancer des innovations techniques pour essayer de raconter les histoires différemment. Notamment avec le Mojo, le journalisme mobile, où les journalistes sont sur le terrain avec des smartphones et peuvent diffuser en direct et tout seul, avec des présentateurs en studio qui sont ce qu'on a appelé des présentateurs autonomes, ouais. Ils lancent leur sujet eux-mêmes.
On va reparler de ça, Philippe-Antoine, okay. Parce que ça m'intéresse, vous les appelez les Mojo, mais on peut peut-être les appeler autrement, franchement.
Oui, oui.
Là, il faut que j'envoie la pub, et puis on revient tout de suite. On va parler effectivement de l'identité et de la vocation des chaînes locales, notamment, ça nous intéresse dans le domaine de l'information. Philippe-Antoine, Dominique Renaud, ne quittez pas, on revient dans... Je vous le fais en moins de 2 minutes.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Plus c'est petit, plus mieux ça marche. C'est un peu le constat en ce moment pour les chaînes de télé locales. France 3 est sur la même ligne. En projet sous Delphine Ernotte, saison 2, le développement de 13 chaînes régionales et hyper locales. On inversera la logique. Les chaînes régionales décrocheront en national et plus l'inverse. Philippe-Antoine, vous qui dirigez les rédactions des BFM locales, quels moyens pour cette info de proximité? Vous nous avez fait saliver avec votre journalisme mobile, le Mojo, mais est-ce que c'est pas juste du low cost en fait?
Non, je pense pas du tout. C'est une évolution avant tout technologique, c'est-à-dire que il y a, je sais pas, 15 ou 20 ans, quand vous voyez une équipe de télé partir sur le terrain, c'était entre 3, 4, parfois 5 personnes. Aujourd'hui, on peut faire quasiment la même chose en étant tout seul, c'est-à-dire en étant capable de filmer tout seul, en étant capable d'envoyer des images tout seul, en étant capable de faire du direct et de très grande qualité grâce à la 4G ou bientôt la 5G.
Et vous trouvez que c'est un progrès, oui?
Bah, c'est un progrès. Déjà, c'est un progrès technologique, c'est-à-dire que on peut aller beaucoup plus vite et être en direct pratiquement partout sans que ça coûte très très cher. Voilà. Donc c'est là-dessus, oui. À partir du moment où c'est l'économie qu'on peut faire sur ces dispositifs, au lieu d'avoir 4 personnes au même endroit, on peut en avoir 4 à des endroits différents. Donc si
ça
on
supprime
reste
simplement ça supprime des métiers, mais bon.
Ça supprime pas forcément des métiers, ça les transforme, et puis ça permet de, voilà, encore une fois, si vous êtes 4 au même endroit et que vous racontez une seule histoire à 4, si ces 4 personnes, vous pouvez les mettre seules, mais à 4 endroits différents, ça vous permet de raconter 4 histoires différentes. Donc, au final, non, on perd pas forcément d'hommes ou de femmes, mais on peut se démultiplier, ce qui est dans nos métiers important.
Oui, je prends l'exemple que vous vous apprêtiez à donner, c'est-à-dire à BFM Lyon, je crois, un présentateur autonome en studio, c'est-à-dire que, par exemple, il se réalise tout seul. C'est comme si là, j'étais en train de vous poser des questions et puis je faisais aussi la réalisation. Valentine, derrière la glace de la régie, je pense qu'elle ne serait pas très heureuse, vous voyez, pas très heureuse.
Oui, oui, peut-être, mais peut-être que Valentine elle serait capable de faire un autre métier, autre chose que derrière sa cabine. C'est ce qui s'est passé dans plein de radios locales aujourd'hui où les présentateurs se réalisent tout seuls. Et pourtant, ça fait des très bonnes radios aussi. Donc non, enfin, ce débat-là, je le trouve en fait pas très intéressant au sens où un présentateur autonome, quand il en fait il voilà il est devant la caméra, il lance ses sujets en appuyant sur un petit bouton sur un ordinateur, mais il y a eu tout un travail en amont qui fait que évidemment il n'a pas été tout seul pour préparer ce travail et que devant lui en studio, derrière en régie, il y a quand même un assistant, un journaliste éditeur qu'on a appelé comme ça, qui a pensé le journal avec lui. Donc voilà, peut-être que le terme de présentation autonome est légèrement inexact. Il est évidemment pas tout seul, mais ça a réduit, c'est sûr, le nombre de personnes en termes de production. Mais encore une fois, si c'est trois personnes qui sont en régie, eh ben on peut les former pour qu'elles soient sur le terrain, par exemple. Finalement, c'est tout bénéfice.
Dominique Renaud, quelle info, quelle ligne sur les VIA, prenons la vôtre, VIA Vosges, basée à Épinal. Vous adressez à qui d'abord? Est-ce que c'est vraiment à Épinal ou c'est plus large que ça?
Ah ben, VIA Vosges s'adresse à toute la population du département des Vosges. C'est vrai que quelle information. Si on prend la période récente des élections municipales, je pense que s'il n'y avait pas eu à certains moments des télévisions locales qui étaient là pour organiser des débats, pour vraiment faire connaître les contenus des différents programmes des candidats, la population ou une tranche de la population aurait eu du mal à accéder à ces informations. Le confinement a quand même un peu révolutionné les choses. Si on doit laisser la place uniquement aux réseaux sociaux, même localement, ça va être compliqué. Donc il y a toujours besoin de journalistes qui sont là pour vraiment donner des clés, pour permettre à la population de mieux appréhender son environnement. Sur la problématique des moyens, c'est sûr que on utilise des moyens modernes qui nous permettent peut-être de faire des économies d'échelle. Mais ça n'a pas été au détriment du nombre de personnes qui travaillent dans les télévisions locales. Aujourd'hui, les télévisions locales, c'est 500 personnes, c'est 300 journalistes, et c'est pas l'évolution technologique qui fait baisser le nombre de personnes qui travaillent au sein de ces télévisions. Ça ne cesse d'augmenter. Donc c'est pas uniquement une question de moyens, c'est vraiment une question de contenu et d'être hyper réactif et très proche de la population. C'est ça que permet ces moyens plus légers qui nous permettent, c'est vrai, d'être beaucoup plus mobiles et d'être beaucoup plus en contact direct et en prise directe avec la population locale.
Vous pensez l'un et l'autre que l'avenir est vraiment dans la télé locale la plus locale possible, plus on s'approche et plus on est dans le vrai, c'est ça votre credo, Philippe Antoine, BFM?
Oui, je pense que c'est une offre d'info qui est différente. On voit bien, nous, vous parliez au tout début des audiences sur la saison, sur cette saison. C'est pas un hasard si cette évolution qui se confirme année après année de l'information locale et progresse. C'est que on le voit notamment sur BFM Paris. On a un réflexe d'info locale qui commence vraiment à se mettre en place, comme il a pu. Qu'il existe encore, mais qu'il a pu exister il y a quelques années sur BFM TV. On voit des gens qui reviennent de façon très régulière, soit tous les matins, soit tous les soirs, et on constate la même chose à Lille et à Lyon, parce que je pense que c'est une information complémentaire. La durée d'écoute, elle n'est pas très 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 longue, parce qu'on vient picorer une info concernante à un certain moment de la journée, puis après on va écouter la radio, regarder d'autres chaînes d'infos, ou que sais-je. Mais disons que dans le paysage, dans la façon de s'informer, ça devient une façon de plus en plus régulière et avec, je pense qu'il y a une dimension aussi de communauté. On ne s'adresse pas de la même façon. Nous, par exemple, voilà, sur les chaînes, on se tutoie parce qu'on considère que...
Ah, vous tutoyez ?
Oui, ouais. Oui, parce que dans la vie, on se tutoie, donc il n'y a pas de raison qu'à l'antenne, on ne le fasse pas. Et ça fait partie, je pense, que dans la façon de raconter cette information de proximité, ça en fait partie aussi. Mmh. Tout comme pendant le coronavirus, on a vu toutes les chaînes de télé ont commencé à utiliser Skype et tous ces moyens de technologie. Nous, ça fait plusieurs années qu'on le fait et qu'on met des téléspectateurs à l'antenne grâce à ces moyens.
Merci.
Parce que c'est de la proximité.
Je te remercie Philippe-Antoine, BFM, et du coup je te remercie aussi Dominique Renaud, Local TV. Merci à tous les deux d'avoir témoigné sur vos chaînes locales, et bel été près de chez vous. À suivre les copains d'abord, nouvelle série d'été sur M6, série familiale, c'est dans 2 minutes.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
L'été, l'inédit ne court pas les rues à la télé et en août, ce sera pire. Si vous aimez les comédies familiales, voilà du frais. M6 lance jeudi soir en prime time sa nouvelle série Les Copains d'abord. Un 6 fois 52 minutes, deux épisodes par semaine, l'histoire de deux familles très proches vivant sur le même palier qui un jour sont délogées et décident de se lancer dans un projet d'habitat participatif. Ça, c'est le point de départ. Bonjour Stéphane Moati.
Bonjour.
Vous êtes l'un des producteurs de cette mini-série Les Copains d'abord. Quel parcours jusqu'à la diffusion qui commence après-demain soir sur M6 ? C'était une demande de la chaîne pour une comédie familiale ? Ça se passe comme ça ? Vous répondez à un appel d'offres ou c'est votre idée ?
Alors, c'est pas vraiment un appel d'offres, mais il y a une ligne très affirmée chez M6 qui est la comédie familiale, qui a fait ses preuves et... On a des relations de proximité avec eux et un jour, en réfléchissant à une idée de série, Edgar Grima et Jérôme Bruno m'ont parlé d'une bande d'amis qu'ils connaissaient, qui se sont lancés dans ce choix singulier qui est comment on vit ensemble.
Pour de vrai alors.
Pour de vrai. Mm-hmm. Et ils me disent, mais on croit qu'il y a un terrain absolument incroyable. En gros, les gens ont souvent l'habitude de parler du vivre ensemble, là ils vont le faire. Les personnages qu'ils ont imaginés, etc. Donc c'est, vous savez, souvent
là,
fiction...
Là, ça a clignoté, vous avez vu comédie et comédie familiale.
Comédie et puis air du temps, parce que je trouve qu'il y a plein de problématiques. On l'a bien vu avec la crise qu'on vient de traverser. Le choix de ces nouvelles formes de sociabilité, où on choisit dans quel environnement, avec qui on a envie de le partager, c'est extrêmement fort. Voilà. Et puis ce sont des auteurs qui ont une force dans les personnages, dans la création, de faire monter des conflits, de faire monter des défauts. Et puis de les amener dans un trajet singulier.
Alors il y a trois éléments dans cette histoire, comédie, familiale, de l'été. L'addition de ces trois facteurs, ça donne quel type de contraintes ?
Écoutez, c'est bien d'avoir des contraintes parce que ça libère à un moment la créativité. Encore une fois, c'est une série qui est portée par les personnages. En amont, on a eu deux familles très, très bien dessinées, très fortes, qui sont complémentaires, qui sont unies par l'amitié. Donc en fait, les contraintes, on les a dépassées, on a trouvé les solutions, y compris dans la fabrication, sur les problématiques particulières de comment on filme, comment on recrée un chantier.
Alors de famille, donc les Binarelli et les Kaplan. Chez les Kaplan, un couple et une fille adoptée. Le père Dimitri est médecin généraliste et c'est vous qui l'interprétez, Amaury de Crayencourt. Bonjour.
Bonjour.
Je signale aux fans du Bureau des Légendes que vous y jouez Simon.
Exactement.
Qui est Simon déjà ?
Simon, c'est le recruteur qu'on voit dans la saison 1. C'est celui qui va recruter Marina Loiseau, donc Sarah Giraudeau, et avec qui il aura ensuite une histoire d'amour.
Ah oui, c'est ça. Pardon, j'ai mélangé là les séries. Vous, c'est un peu votre dada, les séries. Non, c'est vrai, vous avez joué notamment dans Par en mode d'emploi sur France 2, Nos chers voisins sur TF1. Visiblement, vous aimez ça. Vous vous sentez bien là-dedans. Pourquoi ?
Oui, je trouve qu'il y a quelque chose... Alors déjà, sur cette question du choix des acteurs, on n'a pas, il y a pas toujours le choix, c'est pas forcément toujours une décision, on va un peu là où on nous désire. Et moi, mon désir, il est un petit peu partout, j'aime autant le théâtre que le cinéma ou la télévision. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la télévision aussi, et notamment ce que j'ai fait dans Les Copains d'abord, donc aux côtés de mes camarades Julien Bosselier, Olivia Cotte et Judith Siboni, c'était un bonheur, c'était une joie chaque jour. La télévision a ça d'agréable, et la série en particulier, de pouvoir fouiller un personnage à fond, parce qu'effectivement, on va pas raconter une histoire en une heure et demie.
Oui, vous avez du temps devant vous.
Exactement, on a 6 fois 52 minutes, 6 épisodes pour raconter nos personnages, les vivre. Et c'est très fort, c'est très riche. C'était 3 mois de tournage intense.
Qui est Dimitri Kaplan que vous interprétez dans Les Copains d'abord ? Une sorte de capture du personnage, c'est fondamental ?
Alors Dimitri Kaplan, c'est quelqu'un qui a priori est assez droit comme ça, assez maniaque même par moments.
Il est raide un peu.
Il est assez raide, ouais. Exactement. Et il va être amené évidemment dans cette espèce de grande colo comme ça avec tous ses copains à mettre un peu de côté ses raideurs pour un petit peu s'ouvrir. Il y a plein de thèmes qui sont abordés.
Mettre de côté ses raideurs, qu'entendez-vous par là ?
Ben en fait, il y a plein de thèmes abordés dans cette série. Dimitri, donc mon personnage. Va notamment être amené à se questionner sur sa sexualité.
Oui. Et on va pas spoiler, mais ça évolue pas mal. Hein,
voilà,
de ce côté-là.
Je parle juste de ça, de ces questions qu'il va se poser, sans spoiler exactement. Et du coup, c'est ça aussi qui va mettre de côté, c'est-à-dire que ce personnage qui est assez rigide comme ça, qu'on croit très droit dans ses baskets avec sa femme, ses enfants et son métier, tout d'un coup va être amené à se poser des questions et avoir une vie un peu plus rock'n'roll que ce qu'il aurait pensé.
Rock'n'roll, vous appelez ça comme ça. Alors les copains d'abord avec aussi Olivia Cotte, Julien Boisselier et Judith Siboni. On va écouter à quoi ça ressemble, bande-annonce, avec la voix exclusive M6.
Une création exclusive M6.
Quoi ? On est viré. Le propriétaire, il vend l'immeuble.
Mais on vivra plus ici ?
Face à la galère, des copains vont créer l'immeuble de leur rêve.
C'est notre solution pour rester ensemble.
Votre projet, c'est justement d'intégrer tout type de personnes, y compris les plus fragiles.
Ils vont devoir trouver les voisins parfaits.
Est-ce que vous avez des pistes ?
On peut demander à mes parents.
On va habiter avec vous.
Plutôt crever. Bonsoir les gens.
Votre pré-candidate, c'est la dépressive du troisième, c'est ça ?
Oh, dépressive, tout de suite. Vous êtes des nazis et que personne n'a envie d'habiter avec vous.
Elle est bonne celle-là.
Les copains d'abord, on va parler du ton, de l'écriture, des enjeux aussi, culture média, en mode comédie familiale d'été ce matin. On revient tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Les copains d'abord, un titre à la Georges Brassens pour la série familiale d'été qui démarre jeudi 21h05 sur M6. Stéphane Moati, vous en êtes le producteur ou l'un des producteurs. Il fallait trouver le ton, évidemment, c'est important le ton. Et aussi savoir jusqu'où vous pouviez aller en prime time sur M6, même l'été. Est-ce qu'il y avait des consignes du diffuseur ?
Il n'y a pas de consigne, mais vous avez raison, c'est vraiment une question de ton. C'est-à-dire cette comédie, la force de cette comédie, elle est drôle, elle est émouvante, mais elle a une forme, alors c'est un mot un peu galvaudé, mais c'est vrai en l'occurrence, elle a une forme de modernité parce qu'elle va investiguer, explorer une famille utopique. Une famille utopique où, en gros, à la fin, tout le monde va devoir dépasser ses préjugés et son approche de la différence. Donc c'est un peu grinçant par moments, c'est généreux, ça reste une série feel good. Voilà. Et les auteurs ont vraiment c'est extrêmement bien écrit et je pense que les comédiens le confirmeront. On a trouvé ce ton.
Ouais. Alors là, je passe la parole à Maurice de Crayoncourt et il va me dire bah non, c'était écrit moyen, pas si bien que ça. Hein
honnêtement, vous parliez tout à l'heure de télévision. Et effectivement, on a tendance parfois, on peut lire parfois des choses où on a besoin de réécrire nous-mêmes les textes.
Ah, ça arrive ?
Ça arrive qu'on soit obligé de mettre en bouche, comme on dit, parce que tout d'un coup, il va y avoir des formulations, des tournures de phrases qui sont pas terribles. Là, Edgar Grima, donc, qui est le créateur, showrunner, comme on dit, de la série.
Vous êtes un showrunner pour 6 épisodes ?
Edgar a joué ce rôle-là, ouais. C'était assez. Et c'est vrai que c'est rare en France. Moi, je l'avais vécu effectivement déjà avec Eric Rochand sur le Bureau des légendes, cette histoire du showrunner. Edgar a joué ce rôle-là, donc il y avait une espèce de binôme comme ça avec Denis Imbert, le réalisateur. Et donc, les auteurs, donc Edgar, Thomas Mansuy, on fait un travail.
Et Jérôme Bruno.
Et Jérôme Bruno, pardon, évidemment. Ouais. On fait un super boulot, c'est-à-dire qu'on ne changeait pas un mot. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils ont écrit, Jérôme justement est comédien aussi. Ils ont écrit à voix haute, quoi. On sent qu'ils ont écrit en jouant, qu'ils ont l'habitude d'écrire. Et du coup, c'est très agréable. Dès la première lecture, on se marrait en lisant, quoi. C'est quand même bon signe. On n'était pas là à se dire, bon, comment on va jouer ça? Toutes les situations étaient claires. On a ri dès le début. On a ri du début à la fin.
Alors quand même, je vais vous demander, comment avez-vous joué ça? Parce que vous jouez Dimitri Kaplan, je le disais, médecin, qui va évoluer, donc, mais qu'on nous décrit au départ comme à la tête d'une famille bobo. Hein, c'est ça le descriptif, médecin généraliste. Donc, dans l'interprétation, ça donne quoi ? Voilà, comment vous endossez le rôle ?
Eh bien, c'est là que, justement, ce duo Edgar-Denis a été très fin. C'est que les directions étaient fines. Il n'y avait pas de volonté de composer énormément. On essayait vraiment de se dire, et si Dimitri Kaplan, c'était moi, comment moi, je jouerais ces situations-là. On est vraiment parti de ça. Je ne suis pas parti, en tout cas, moi, pour Dimitri, dans des choses très, très composées, pour que ce soit fin. C'est-à-dire que, oui, on est dans de la comédie, mais on est dans des choses qui sont, fines. Je crois que c'est le terme de la direction d'acteurs. C'est assez subtil, quoi. C'est bien.
Et vous qui avez écumé pas mal de chaînes, est-ce que votre jeu s'est adapté au climat du diffuseur ? Est-ce que vous jouez sur M6 comme vous avez joué sur TF1 ou France 2 ?
Ah ouais, non, je pense pas du tout au diffuseur.
Ça, c'est pas votre problème, ça ?
Non, c'est pas mon problème. Je crois que ce soit, évidemment, il y a une différence avec le théâtre, évidemment, parce qu'il y a des questions techniques de porter la voix ou autre chose comme ça, mais j'ai l'impression que On dit d'ailleurs qu'il faut jouer drame quand on fait de la comédie, et il faut jouer comédie quand on fait du drame.
Et c'est vrai.
Ou je crois. Ouais.
Ah ouais.
Ouais, ouais. En tout cas, c'est vrai que moi, mon personnage, qui a un côté un peu clown blanc comme ça dans la série, je cherchais pas du tout à faire rire. Et je crois que c'est ça qui à la fin est drôle dans les situations, c'est qu'encore une fois, c'est très bien écrit. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes et de faire des grimaces pour être drôle dans cette série.
Non, on peut ne pas faire Louis de Funès si vous
non,
voulez.
Non, je
mais
plaisante.
Bon.
Mais bien sûr, je vois ce que vous voulez dire. Les situations sont drôles et du coup, on a qu'à les jouer. Il y a quelque chose d'assez confortable pour les acteurs dans cette série, dans ce sens-là.
Stéphane Moati, producteur, j'imagine que quand vous montrez deux familles, le casting est fondamental. Comment avez-vous procédé? C'est alors, vous le casting d'abord ou j'ai jamais très bien su ce qu'était un producteur
le
pour
casting,
vous dire la
vérité. Le casting, en fait, on a travaillé avec un directeur de casting qui s'appelle Pierre-François Créancier. Et Edgar avait une typologie de personnage très affirmée. On a décrit Dimitri, son épouse qui est une femme un peu à l'ancienne, mais qui va avoir un parcours absolument incroyable dans la série, qui va se révéler, qui est cette typologie de personne un peu gauche, mais extrêmement touchante. Voilà, donc les personnages étaient très dessinés. Et après le pari, pour que ça marche ce genre de série, il faut que quand on regarde la photo de famille, on se dise « ouais, ils sont vraiment amis dans la vie, on y croit ». Voilà, on est parti de là, et après, on cherchait une humeur vraiment de comédie. On a eu la chance de tomber sur l'idée de réunir à nouveau Olivia Cotte et Judith Siboni, qui sont amies depuis l'âge de 13 ans, qui ont fait une série culte qui s'appelle « Vous les femmes ». Et ça, on pouvait que croire à leur amitié. Après, Amaury et Julien Boisselier...
Alors
se sont
là, c'était plus compliqué quand même.
Voilà.
Alors là,
on se détestait.
Amaury et Julien, bon...
Non, mais voilà, Amaury et Julien sont complémentaires, sont différents dans leur physique, dans leur jeu. Et voilà, donc il y a un kaléidoscope qui est réussi. Et la force du casting en comédie, c'est aussi de réussir les seconds rôles.
Ouais.
Et voilà, donc on y a attaché un soin particulier.
Alors, c'est vrai qu'on est, ouais, on est entouré de voilà, Benjamin Bellecour, Youssef Hadji, Cédric Moreau. On est entouré de machines de guerre, d'acteurs.
Anne-Elisabeth Blateau, les parents, Catherine Jacob et Jean Benguigui.
Merci pour eux.
C'était génial.
Merci pour eux, c'est important de citer tout le monde. Alors je reviens un instant sur les thèmes. Ils vont évoluer tout au long de la série. L'adoption, l'homoparentalité aussi, l'homosexualité. Est-ce que ça, c'est récent de pouvoir parler de ces thèmes-là sur une chaîne en prime time, sur une chaîne comme M6? Est-ce que ça, c'est quand même relativement récent?
C'est-à-dire, on y vient de plus en plus. M6 a toujours abordé la question de l'ère du temps, de la réalité, peut-être moins dans ses fictions, mais elle y est venue progressivement. Et à partir du moment où on fait de la comédie, on doit être un peu un miroir de la société dans laquelle on vit. Voilà. Et donc M6 a été très à l'aise avec ça. À partir du moment, vous évoquez la question du temps, à partir du moment où on est dans une forme de comédie feel good, parce que c'est ça que M6 a envie d'offrir aux téléspectateurs. Voilà, mais les auteurs avaient des thèmes à aborder.
C'est une série en 6 épisodes, ce sera one shot ou en cas de succès vous pouvez rempiler le cas échéant?
Écoutez, on verra. Pour l'instant,
vous avez comme réponse, on verra, franchement.
Mais on est concentré sur la diffusion. Voilà.
On a
des idées sur l'évolution des personnages.
Ouais, ce serait quoi une audience acceptable à partir de jeudi?
Écoutez,
on verra.
Vous l'avez dit dans votre préambule, c'est atypique de programmer l'inénie en été, donc j'ai pas vraiment de point de comparaison.
Mm-hmm.
Voilà.
Amaury de Crayoncourt, vous seriez partant? Ça continuait.
Pas qu'un peu.
Pas qu'un peu.
Vraiment, on en parlait déjà en tournant la saison 1, on imaginait la suite et on en rêvait un peu.
Ouais. Ah, d'accord. Juste une petite dernière question pour le Bureau des Légendes, j'ai une petite obsession. Ça continue ou pas? J'ai pas bien compris. C'est fini?
Je crois que c'est fini, là. La saison 5.
C'est pas vrai.
Je crois que Jacques Audiard clôturait la série. Mais c'est pareil, il me semble qu'au départ, il était question de faire que 3 saisons et finalement, il y en a eu 5.
C'est fini?
J'en suis pas sûr, okay. Mais il me semble bien. Ouais.
Vous allez me laisser là-dessus, c'est horrible. Merci les copains. D'abord, série familiale d'été de M6, les 2 premiers épisodes à partir de jeudi. Merci à tous les deux d'être passés par Culture Média. On arrive doucement vers 10h à la cool. Vous restez là à venir dans Culture Média, la comédienne humoriste en vogue. Elle s'appelle Mela Bédia et elle est forte. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.